Accent d'Europe, Catherine Roland.
Don't go, please stay. Don't go, please stay.
If I got on my knees.
Bonjour à tous, les meilleurs moments d'Accent d'Europe, ça continue. Alors, le Brexit, vous le savez, c'est désormais pour le 31 octobre, pour le jour d'Halloween. Les Européens n'en finissent pas de s'inquiéter sur la forme que ça va prendre. Et ils ne sont pas les seuls. À l'autre bout du continent, l'imminence de ce Brexit commence à rendre la Turquie très nerveuse pour plusieurs raisons que nous explique Anne Andlauer.
D'abord, pour ceux qui, en Turquie, souhaitent encore sincèrement que leur pays accède un jour au statut d'État membre, et Recep Tayyip Erdogan n'est sans doute plus de cela, le Brexit est une très mauvaise nouvelle. « Nous voulons à tout prix que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne », plaidait le ministre turc des Affaires étrangères le 22 juin 2016, à la veille du référendum sur le retrait du Royaume-Uni. L'explication est politique. Les capitales européennes qui soutiennent la candidature d'Ankara se comptent sur les doigts d'une main, et Londres en fait partie. Avec le Brexit, la Turquie perd un allié majeur au sein de l'UE. Il y a ensuite les inquiétudes financières. Le Royaume-Uni était un contributeur important au budget de l'UE, budget dont la Turquie, en tant que pays candidat, bénéficie sous la forme de fonds dits de préadhésion. Pour la période 2014-2020, la Commission européenne devait verser à Ankara quelque 4,5 milliards d'euros. Certes, ces aides ont déjà été réduites pour sanctionner les violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse dans le pays. Mais avec le retrait britannique et en l'absence d'un retour de l'état de droit en Turquie, le pays va devoir s'habituer à des aides de plus en plus faibles, voire quasi inexistantes. Et cela l'inquiète beaucoup plus que le président Erdogan ne veut bien l'admettre. Reste enfin la question des relations turco-britanniques, notamment économiques, au lendemain du Brexit. Depuis 1996, elles étaient régies dans le cadre de l'union douanière entre la Turquie et l'UE. Ankara se prépare désormais à négocier un accord de libre-échange avec Londres, l'un de ses principaux partenaires commerciaux en Europe et le deuxième client mondial de ses exportations. Problème, rien ne pourra se conclure tant que le Royaume-Uni et l'UE n'auront pas eux-mêmes signé un accord pour régler ces questions. Voilà qui promet beaucoup d'incertitudes pour les entreprises turques, déjà durement touchées par la récession économique dans leur pays.
Phénomène de mode depuis quelques années déjà, le bien-être, le développement personnel, la recherche frénétique du bonheur sont devenus une véritable industrie. Les rayons consacrés à cette tendance dans les librairies ne font que s'étendre et ce marché de l'édition pèse 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a donc les livres, les cours, des applis sur téléphone mobile, mais pas que, et c'est le reportage de Juliette Rangeval.
À la recherche de la recette du bonheur, les Français restent de grands lecteurs, mais s'ils lisent surtout des romans, de plus en plus d'ouvrages de développement personnel se frettent un chemin jusqu'à leur bibliothèque. Le secteur est en nette progression selon les derniers chiffres du Centre National du Livre, ce que constate aussi ce responsable de rayon dans une grande librairie parisienne.
Public très féminin, assez jeune, beaucoup d'achats instinctifs, l'importance des titres, l'importance des couvertures, beaucoup d'achats personnels. Et c'est des choses qui s'offrent assez difficilement parce que c'est délicat.
Ce succès du développement personnel ne se trouve pas qu'en librairie. Au théâtre Tristan Bernard à Paris, tous les lundis, le public se presse pour voir deux comédiens jouer l'amour dans tous ses états, des premiers émois à la rupture, en passant par la crise de couple.
Écoute Céline, si on peut rien te dire, on va pas... J'ai pas dit tout ça, je vous avoue que rendu là, je savais plus par quel bout prendre.
Il y a un troisième personnage sur scène qui lui joue son propre rôle. Thomas Dansembourg est formateur en communication non violente, conférencier et thérapeute.
Excusez-moi de vous le rappeler, mais franchement, il a raison, au petit jeu du je et du tu, vous n'êtes guère meilleur que lui.
Non, mais vous faites équipe là ou...
Et le public aussi intervient.
Aujourd'hui, est-ce que ça vous va d'être mon groupe de thérapie? Ça vous intéresse de jouer le jeu? Alors, je propose que nous prenions une grande respiration pour devenir Céline. Et nous devenons Céline. Alors moi Céline, je me sens... Comment est-ce que je me sens si je suis Céline? Triste. Oui. Seul. Désespéré.
C'est du spectacle, bien sûr, mais pas seulement, explique Thomas Dansembourg.
La plupart de nos malentendus sont des mal écoutés. Et le message de la pièce est vraiment une invitation à avoir l'humilité de la fermer quand on écoute, pour laisser l'autre parler. Et c'est vraiment le message de base pour pouvoir bien comprendre où l'autre est, comment il fonctionne. Ça demande d'apprendre à se mettre soi-même un petit peu de côté. Donc l'idée est vraiment d'éviter l'agressivité inutile. Donc je ne vois pas de danger danger. Au contraire, je vois plutôt un bénéfice de pouvoir s'amuser en s'observant. La plupart des gens témoignent, souvent ils attendent à la sortie pour remercier et ils disent bon, on s'est reconnu complètement, et donc je n'y vois qu'un bénéfice vraiment.
Est-ce que cette forme de théâtre interactif, c'est une méthode de développement personnel?
Pour moi, toute personne qui s'implique avec suffisamment de rigueur et de profondeur dans ce travail de connaissance de soi psycho-spirituel, il y a ces deux enjeux qui se joignent. Toutes les personnes qui font ce type de développement font au fond du développement social durable. Elles aident la vie communautaire parce qu'elles se placent à un meilleur endroit dans une attitude qui est plus empathique, avec davantage de bienveillance, de compréhension des mécanismes psychologiques qu'elles ont travaillé sur elles-mêmes et qu'elles peuvent donc comprendre chez les autres, parce que souvent l'autre fait miroir. Et donc leur attitude est souvent beaucoup plus pacifiante. Il y a moins d'ego. Et ça, on en a grandement besoin.
Les spectateurs, eux, adhèrent. La plupart d'entre eux ont déjà testé des méthodes de développement personnel, même si pour David Barras et Stéphanie Denis, c'est la première fois que cela passe par le théâtre.
C'est la première fois.
Vous êtes en couple?
Oui.
Vous aviez des problèmes à régler?
Non, pas du tout.
Vous avez découvert que vous aviez des problèmes à régler?
On le savait déjà. Et on a pu maintenant se mettre dans une boîte, hein, de fusionnels, voilà.
Comment ça vous est venu de venir voir cette pièce?
Avec des amis.
Oui, voilà, c'est une amie qui a vu ça par hasard. Enfin, elle a pas su nous expliquer elle-même comment elle a trouvé la pièce, mais voilà, on est venu.
Voilà, je suis un processus personnel.
Oui, mais en développement personnel, tu as fait une thérapie et tout.
L'enfant intérieur.
Développement personnel et thérapie qui ont amené David Barras à un changement de vie radical.
Je travaillais dans l'automobile. Donc un métier très technique, j'ai commencé sur de la recherche fondamentale sur de la combustion, donc qui n'a absolument rien à voir, voilà, et donc prendre conscience de mes blessures d'enfance et m'apporter beaucoup d'empathie et d'amour, donc petit à petit, voilà. Être dans du mieux-être et du mieux-vivre, moins de stress. Et du coup, plus fusionnel en avec beaucoup d'humour, beaucoup de rire.
Aujourd'hui, il est sophrologue, mieux dans sa vie, mieux dans son travail. Une dimension qu'ont très bien perçue les départements de ressources humaines des entreprises qui investissent de plus en plus ce secteur. Et oui, parce que les salariés se disent de plus en plus stressés, cette industrie du bonheur se retrouve donc au travail. Les départements de ressources humaines regorge d'idées pour aider le salarié à se sentir mieux dans sa vie de travail et de quotidienne. Mais ce n'est pas toujours sans arrière-pensée. Et c'est ce qu'explique à Juliette Rangeval, la sociologue travaillant sur l'évolution du travail et de l'emploi, Daniel Linhart.
Il y a comme ça des mots dans l'entreprise. On dit souvent, il faut accepter de sortir de sa zone de confort pour grandir. C'est vraiment des mots étiquetés entreprise. On imagine à titre personnel devenir quelqu'un de meilleur, de plus intéressant, de plus intelligent, de plus convaincant, qui trouve plus de satisfaction que les autres à ce qu'il fait. Donc effectivement, la dimension personnelle a été extrêmement investie par le management, et donc ça n'est pas étonnant qu'on trouve ensuite des politiques de développement personnel où on met à disposition aux salariés dans l'entreprise de quoi méditer ou faire le point sur sa personne, ou accompagner par des psychanalystes, des psychologues pour se découvrir soi-même, s'épanouir, etc., etc.
Les salariés qui suivent ces programmes, ces ateliers de développement personnel, ils ont l'air assez contents. Ceci dit, en général, ils en gardent plutôt un bon souvenir. Quelques-uns disent c'est un peu gadget, mais du coup, on a envie de dire bah c'est bien.
En soi, on peut pas dire que c'est mal. Si les gens y vont, que ça leur convient, que ça leur plaît, il y a pas de raison de dire que c'est mal. Je crois que ce que les salariés apprécient avant tout, c'est d'abord qu'on s'occupe d'eux, qu'on prenne en considération leurs problématiques personnelles et le fait que la vie au travail, c'est pas facile. Donc si on leur dit, voilà, on est là pour vous, hein, on s'appelle les DRH de la bienveillance et du bonheur, on s'appelle les Chief Happiness Officers, on a pensé à vous et voilà c'est à quoi on est arrivé, des séances de développement personnel, ou de méditation, ou de massage, ou etc., etc., etc. Donc, a priori, les gens trouvent que ça part d'un bon sentiment, et on voit pas pourquoi ils s'en formaliseraient. Le problème, c'est pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça cache? Ou qu'est-ce que ça compense? Ou à quoi ça sert? Parce que du côté du travail, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus exigeant, parfois de plus en plus frustrant. On demande, en contrepartie, un engagement loyal et total dans le travail. On demande une adhésion totale à la culture de l'entreprise, à ses objectifs. On veut que vous soyez tous des militants un peu inconditionnels de la cause de l'entreprise, etc. Mais après, nous, on est là pour tout. Pour tout le reste. Et là, sans contestation possible. Il ne s'agit pas que vous veniez pinailler ou revendiquer quoi que ce soit. Puisque tout ce qu'on fait, voyez, on fait pour vous. En réalité, dans l'entreprise, comme les salariés sont gérés sur un mode individualisant et personnalisant, ils n'ont pas le sentiment d'être insérés au sein de collectifs de travailleurs. Ils ont plutôt un sentiment de solitude au travail. Et donc, dans l'entreprise, justement, on va compenser ça par, voilà, nous, c'est notre entreprise, mais on en fait une communauté où vous, vous avez votre place et on s'occupe de vous, on va vous coucouner, on va vous doudouner, on vous aime, on vous le montre.
Good morning, Albania!
Les employés des centres d'appel vivent eux aussi dans le stress et souvent même ne connaissent pas leurs droits. Des plateformes téléphoniques qui sont devenues pourtant ces dernières années d'importants employeurs, notamment en Albanie. Entre 1 et 2 euros de l'heure, des jeunes appellent en italien, en anglais, en français ou encore en allemand pour de grandes entreprises internationales. Le français Téléperformance est l'un des principaux acteurs du marché et c'est dans cette entreprise qu'on a récemment créé le premier syndicat du genre. Une nouveauté pour un pays où les syndicats ne sont que les officines des partis politiques. C'est le reportage de Louis Seyé.
Today, Téléperformance the best companies to work for in Albania, and we are very proud of you guys.
Le meilleur endroit pour travailler de l'année 2018. Dans son dernier clip de promotion, la multinationale française Téléperformance fête avec le sourire ses 10 ans de présence en Albanie. Le numéro 1 mondial du télémarketing n'est toutefois pas très bavard avec la presse et ne répond pas aux demandes d'interview. À Tirana, Besmir est l'un des 2000 employés de la compagnie. Ce jeune père de famille apprécie son travail de téléopérateur, mais il déplore le manque de législation sociale.
C'est un travail qui me plaît. J'ai des collègues très dynamiques. Il y a beaucoup de jeunes, dont la plupart ont un diplôme universitaire. Mais dans la loi albanaise, il n'y a pas de législation précise comme dans les autres professions qui encadrent notre travail dans les centres d'appel. C'est un gros problème. Et ce n'est pas normal. Le secteur se développe depuis plus de 10 ans et il emploie plus de 25 000 personnes. Ce n'est pas rien.
Depuis quelques années, les centres d'appel sont en pleine expansion en Albanie. Il y en a près de 800 pour des salaires qui varient entre 1 et 2,50 euros de l'heure. Depuis la chute de la dictature communiste en 1991, le libéralisme économique a imposé ses lois et les employés du secteur privé ont souvent du mal à faire respecter leurs droits. C'est le cas dans les centres d'appel, comme l'explique l'économiste Claudiane Tomori.
Bien sûr, il y a des problèmes concernant le respect du code du travail, mais ces problèmes ne viennent pas d'un vide juridique, mais plutôt de la non-application des lois. C'est une situation qui ne concerne pas seulement les centres d'appel, mais toutes les industries du pays.
Des syndicats existent en Albanie, mais pour beaucoup d'Albanais, ces organisations ne défendent pas les droits des travailleurs.
Quand il y a eu des tentatives pour créer un syndicat qui représenterait vraiment les intérêts des travailleurs, les politiciens s'en sont tout de suite mêlés. Soit ça a échoué, soit ces syndicats sont devenus les courroies de transmission des partis politiques. C'est un risque qui existe toujours en Albanie.
Faire entendre la voix des milliers d'employés des centres d'appel, c'est ce qu'espère justement Besmir. Avec des camarades albanais et la Fédération syndicale internationale Uni Global Union, ils viennent de créer leur propre syndicat, Solidarity. Besmir est optimiste.
On parle d'un secteur, les entreprises privées, où il n'y a pas eu de création de syndicat depuis 80 ans. C'est la première fois qu'on crée un syndicat complètement autonome, apolitique et sans soutien financier de l'État. Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de personnes dans le futur.
Solidarity a été officiellement lancé fin février au sein de l'entreprise Téléperformance. La multinationale a pourtant une bonne réputation dans le monde du travail albanais. Mais pour Besmir, les standards de protection sociale en Albanie doivent être réévalués.
Peut-être que les centres d'appel rémunèrent mieux que d'autres secteurs de l'économie albanaise, mais on est encore très désavantagé par rapport à d'autres pays européens. Et on ne parle pas que des conditions. Les objectifs qui sont fixés pour chaque opérateur sont bien plus élevés, avec un salaire bien moindre.
Près du centre de Tirana, les nouveaux syndiqués se retrouvent dans une petite maison décorée d'affiches des mouvements sociaux du monde entier. Mirella se présente comme l'une des militantes de la nouvelle organisation. Elle est choquée par le manque de réglementation dans le secteur des centres d'appel.
Les centres d'appel ne reconnaissent pas les maladies professionnelles. Par exemple, les problèmes d'audition ou de vue ne sont pas reconnus comme tels. Quand les opérateurs présentent un certificat du médecin, ils sont renvoyés de la compagnie car ils ne sont plus considérés comme aptes à y travailler.
Obtenir de nouveaux droits et améliorer les conditions de travail des employés donc. Mais pour Mirella, Solidarité.ti doit surtout permettre de changer le regard des Albanais sur le rôle des syndicats.
Certaines entreprises nous dénigrent en nous présentant comme des anarchistes qui ne cherchent qu'à salir l'entreprise et ne cherchent pas d'accord. Mais les travailleurs ont leur voix à faire entendre et nous sommes là pour négocier avec la compagnie. Ce n'est pas une lutte pour savoir qui est le plus fort. Le but est de trouver des accords et c'est le sens de l'organisation des employés dans un syndicat.
Les choses sérieuses commencent pour Solidarité.ti qui se donne pour but de fédérer les 30 000 téléopérateurs du pays. Le premier défi sera de vaincre le scepticisme et susciter la confiance des jeunes Albanais.
Europa!
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 C'est une question qui taraude l'Union européenne, la question de la montée en puissance des investissements sur le vieux continent. D'autant que les ambitions chinoises paraissent sans limite avec le projet des nouvelles routes de la soie que Pékin veut mettre en œuvre afin d'intensifier les échanges et la coopération entre l'Europe et l'Asie. Face aux géants asiatiques, l'Union paraît plutôt divisée, comme l'a prouvé la signature par le gouvernement italien d'un mémorandum d'adhésion au projet chinois que les Français et les Allemands souhaiteraient plus équilibré. Pour y voir plus clair sur ce dossier compliqué, nous retrouvons tout de suite Daniel Vigneron du site myeurope.info.
Bonjour Catherine.
Alors pourquoi le projet de nouvelle route de la soie inquiète-t-il tant les Européens ?
Essentiellement parce qu'il est de conception chinoise et permet d'intégrer encore davantage la Chine dans la mondialisation en bâtissant des infrastructures ferroviaires et routières à travers le continent eurasiatique, mais aussi des liaisons maritimes impliquant l'Afrique via la Méditerranée et l'océan Indien. Dans le cadre de ces nouvelles routes, la puissance chinoise risque de s'imposer dans les multiples pays concernés, des velléités hégémoniques qui déterminent l'Europe a poussé sa propre stratégie de connexion Europe-Asie en cherchant à obtenir de Pékin des engagements en termes de normes sociales et environnementales, d'action sur le climat ou encore d'accès aux marchés publics.
Mais tous les Européens, semble-t-il, ne jouent pas le jeu.
On connaissait la propension de certains pays de l'Est à jouer leur propre carte. À présent, c'est l'Italie et son gouvernement populiste qui signent un mémorandum d'adhésion aux nouvelles routes de la soie, acceptent d'ouvrir aux concessionnaires chinois les ports de Gênes et de Trieste et passent un accord de coopération sur les communications de cinquième génération, la 5G, dont le chinois Huawei est le porte-étendard. Or, Huawei semble étroitement connecté avec les services de renseignement chinois.
Pourtant, de nombreux pays commencent à se protéger des investissements extérieurs.
Vous avez raison, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et même l'Italie ont commencé depuis 2 ans à contrôler l'accès des investisseurs étrangers, notamment chinois, à une série de secteurs dits sensibles ou stratégiques.
Alors Daniel, la Chine est-elle vraiment en train d'acheter l'Europe ?
Oh, loin s'en faut. Alors que le montant total des investissements directs européens en Chine avoisine en 2017, selon l'OCDE, les 200 milliards de dollars, les investissements chinois en Europe atteindraient à peine les 60 milliards de dollars.
Et au sein de l'Union, quels sont les pays de destination ?
Le Royaume-Uni est la destination favorite des investisseurs chinois avec près de 50 milliards d'euros. L'Allemagne vient loin derrière avec 22 milliards, tandis que la France et l'Italie sont autour de 15 milliards. Mais ces valeurs ne reflètent que partiellement la réalité des investissements chinois. Car, par convention, l'investissement direct étranger ne prend en compte que les prises de participation supérieures à 10% du capital. De ce fait, ces dernières années, d'énormes opérations n'ont pas été comptabilisées. Par exemple, l'achat en 2018 par le chinois Geely de 9,7% du capital de l'allemand Daimler, et cela pour la coquette somme de 9 milliards de dollars. Ou encore l'acquisition par Xinjiang, mais en plusieurs étapes, de 15% du groupe français Accor Hôtel. À l'évidence, les grandes offensives sont à venir et l'on comprend le souci des Européens de s'y préparer.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur RFI.fr ou sur Facebook. Et quant à moi, je vous dis à demain.